Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent. Vous êtes les bienvenus parmi nous. En effet, on est depuis plusieurs semaines sur ce thème de la transmission de la foi. Et puis, je suis assez touché de voir toutes vos réactions par rapport à ce qui se joue quand on parle de la transmission de la foi. Je sens que ça fait vibrer pas mal de choses. Et puis, peut-être que ce matin, on est sur le volet un peu le plus exigeant, puisque transmettre la foi à notre prochain, et particulièrement à nos voisins ou nos collègues de travail. Puis je vais commencer, un peu comme j'en ai l'habitude, par trois petites questions. Qui est-ce qui ne connaît pas du tout ses voisins ? Qu'est-ce qui les connaît un peu, genre bonjour, bonjour, et puis il fait beau, et puis on s'arrête là. Vous pouvez le faire en levant la main. Et qu'est-ce qui connaît bien ses voisins et qui a déjà pris une fois un apéro avec ? Donc, il y a une large majorité d'entre vous qui connaissez bien vos voisins. Et puis, pour les autres, c'est qu'une question de temps. Je pense que c'est parce que vous venez de déménager et puis que vous n'avez pas encore l'occasion de participer à quelque chose comme ça. Maintenant, je vais vous poser la question sur l'autre volet. Par rapport à vos collègues de travail, qu'est-ce qui connaît entre 0 et 3 collègues de travail assez bien ? Mais je vais augmenter le nombre après. Seulement ceux qui sont de 0 et 3. Les retraités, vous avez le droit de discuter de votre vie antérieure. Comme ça. Qu'est-ce qui connaît bien entre 3 et 10 collègues de travail ? Vous pouvez le faire enlever à la main. Et qu'est-ce qui connaît bien plus que 10 collègues de travail ? Donc là, de nouveau, plutôt un grand nombre de connaissances à ce niveau-là. Donc, on part sur de bonnes bases pour ce que je vous ai à vous transmettre ce matin. Préparez-vous, ça va être beau. Quand on parle de transmettre la foi à ses voisins, à son prochain, à ses collègues de travail, il nous faut d'abord prendre, d'après moi, trois éléments en compte, parce que c'est des mots qui nous sont un peu dans l'arrière-plan, dans notre contexte, que l'on a à prendre en considération. Premièrement, c'est le mot, c'est un peu des mots difficiles, premièrement, c'est le mot de prosélytisme. Ça, c'est interdit sur le lieu de travail, par exemple. Avec les voisins, ce ne sera pas super bien perçu. Et puis, de toute manière, j'ai envie de dire, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Parce que le prosélytisme, vous savez ce que c'est au sens strict du terme ? C'est de faire la promotion d'un organisme humain. Par exemple, la fraternelle. Faire la promotion de la fraternelle dans la rue, avec ses voisins, sur ses collègues, avec ses collègues de travail, c'est quelque chose qui est tout simplement interdit parce qu'on va aller trop loin au niveau des convictions propres. Par contre, parler de Jésus et parler de Dieu, ça, au sens strict du terme, ce n'est pas du prosélytisme parce qu'on ne cherche pas à faire venir quelqu'un dans un endroit précis pour qu'il puisse rencontrer Dieu. Petite nuance, mais nous, nous voulons faire connaître le Christ, et pas la frate, j'espère que je ne vous choque pas, mais ce n'est pas notre prise frate qui nous intéresse, c'est de faire connaître le Christ et que les gens aient une relation avec lui. Le deuxième mot en isme, c'est le pluralisme. Alors ça, c'est aussi un mot un peu compliqué, parce qu'on peut tout mettre et rien mettre dedans, mais le pluralisme, et puis j'ai fait toute une formation l'année passée là-dessus, c'est de se rendre compte que dans notre coin de pays, sur le canton de Vaud, mais aussi partout en Suisse, on n'est plus que des chrétiens. Il y a plein d'autres types de croyances qui sont là sur le territoire vaudois. Il y a plusieurs études qui sont faites, mais il y en a des dizaines, voire des centaines de croyances différentes. On le sait, je ne vous annonce rien de nouveau, mais par contre, ça va influencer notre manière d'être avec toutes ces personnes-là, puisque nous sommes appelés à respecter profondément la croyance de chacune et chacun, comme on aime bien aussi qu'on respecte la nôtre. Mais ça va un cran plus loin. Puis ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on passe un peu dans un stade un peu post-laïcité, parce qu'avec le pluralisme, l'État nous donne la possibilité, en tant que croyants, d'avoir aussi notre voix au chapitre. Et ça, c'est assez nouveau. C'est considéré comme étant positif que celles et ceux qui ont une croyance osent aussi simplement l'exprimer, mais l'exprimer dans le respect des autres croyances. Mais le pluralisme, ça ne veut pas dire mettre la tête sous le sable et puis se dire on a peur de tout parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Je pense que là, pour les prochaines années, il y a une fenêtre d'opportunité pour nous que nous devons saisir avec subtilité, mais que nous devons saisir. C'est notre mission. Et la troisième chose, ce n'est pas un isme, mais c'est que quand on parle de partager ou transmettre la foi à notre prochain et puis à nos voisins, à nos collègues de travail, c'est que c'est assez compliqué. Et puis là, j'aimerais tous nous libérer d'un poids, parce que je sens que c'est sur le cœur de beaucoup de moi. Et puis, il y a souvent de la frustration, du découragement, voire même de la culpabilité parce qu'on n'y arrive pas. Eh bien, moi, j'ai envie de vous libérer de cela parce que c'est compliqué. Actuellement, ce n'est pas le premier truc dont on a besoin, la foi. Je dirais que même la foi, c'est un peu considéré comme une option qu'on peut activer de temps en temps. Mais rien de beaucoup plus que cela. Donc, voilà un peu le contexte général, si je le brosse, de quand on veut transmettre la foi en tant que chrétien, quelque chose qui brûle sur notre cœur, quelque chose qu'on nous dit de faire, parce que le pasteur nous a dit de le faire. Voilà un peu dans quel contexte on arrive, voilà un peu où on met les pieds. Et puis, vous allez vous rendre compte que, pour trouver la solution, un peu comme d'habitude, je vais essayer de nous emmener dans la parole, la Bible, et puis voir ce qu'elle en dit. Et vous allez vous rendre compte que, avec le passage que j'ai choisi, le contexte, il n'est pas si différent que ça, il n'est pas complètement à l'opposé de ce que nous sommes en train de vivre. Alors imaginez-vous, je vous amène et je nous amène à Athènes, il fait presque aussi chaud qu'à la Frate, on est dans les années 50 à 60, on suit quelqu'un qu'on a déjà suivi la semaine passée, qui s'appelle Paul, quelqu'un qui a vécu une expérience forte avec le Seigneur, qui a vécu toute une découverte de la foi avec un certain Ananias dans l'église de Damas. Et puis là, il se retrouve à Athènes avec Silas et Timothée. Et là, je vous invite à suivre sur vos téléphones ou dans vos Bibles. Acte 17, à partir du verset 16, et je vais lire dans la version « Parole de vie » 2017. Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que dans la ville, on adore beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste. Dans la maison de prière, il discute avec des Juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, là aussi, il discute tous les jours avec ceux qui passent. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens, des courants philosophiques, qui parlent avec lui. Et les uns disent, celui-là, c'est un sacré bavard, mais qu'est-ce qu'il veut bien dire? Quand je vous parlais de déculpabiliser, même le grand Paul, on ne le comprenait pas forcément. D'autres disent, il a l'air d'annoncer des dieux étrangers. En effet, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce aussi que les morts vont ressusciter ou qu'ils vont se relever. Ils emmènent donc Paul avec eux, ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent « Est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu donnes ? Tu nous parles sans cesse de choses étranges et nous voudrions savoir ce que cela veut dire. » En effet, tous les Athéniens et étrangers passent leur temps à raconter ou à écouter les idées nouvelles. Alors Paul, debout, devant le conseil de ville, se met à dire « Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai vu des monuments sacrés et j'ai même vu un autel où ces mots sont écrits « pour le Dieu inconnu ». Eh bien moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre, car rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous le souffle, la vie et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays, il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Et même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit, oui, nous sommes ses enfants. Ainsi donc, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé le jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent tout cela, et surtout de dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul. Les autres disent « Nous t'écouterons parler de cela une autre fois ». Alors Paul les quitte. Pourtant, quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Denis, du conseil d'Athènes, et une femme appelée Damaris, et d'autres encore. Amen. Or, c'est difficile de prendre toutes les caractéristiques de ce que Paul fait dans ce passage, mais je crois que vous pouvez le reprendre pour vous cette semaine, le méditer presque tous les jours, puis regarder ce qu'il en est sur cette manière de transmettre la foi à notre prochain, à ceux qui nous sont proches. Parce qu'il y a vraiment plusieurs clés qui sont intéressantes. Premièrement, Paul, il ne reste pas là où il est. Il part, il bouge, et qu'est-ce qu'il fait ? Il parle. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dire et puis insister quand même dessus, parce que moi, j'entends le plus souvent, moi, si je témoigne, c'est par mes actes, puis par la parole, ça ne sert à rien. Ben, Paul, il a quand même besoin de parler à un moment donné de quoi il est fait au niveau de sa foi, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il ne croit pas. Oui, il essaye d'agir du mieux possible, oui, on témoigne avec nos actes, mais ça ne veut pas dire que la parole, elle est mise de côté. La parole est aussi importante pour transmettre la foi, transmettre ce que nous croyons. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'il rejoint les gens là où ils sont. Vous avez remarqué ? Il va dans la maison de prière pour rejoindre les Juifs, puis il va sur la place publique, parce qu'il y avait certainement beaucoup de débats, à Athènes, pour rejoindre les gens là où ils sont. Et puis, où on se rend compte qu'il parle, c'est que les gens le considèrent comme étant très bavard. Donc, il y va. Il va rejoindre les gens là où ils sont. Et c'est intéressant parce qu'une des premières choses qu'il fait pour présenter Dieu, c'est de rejoindre aussi là où les gens sont avec leur propre croyance. Il ne va pas tout de suite arriver avec son message à lui et puis dire « voilà, vous devez comprendre comment je crois ». Il va d'abord s'intéresser à ce que les autres croient, là où ils en sont, quelles sont leurs représentations. Et puis peut-être là, on a une clé aussi. Non seulement on doit se mettre en mouvement, non seulement on doit apprendre à parler, mais on doit aussi peut-être apprendre à connaître ce que l'autre croit. Je ne sais pas si vous avez parmi vos collègues de travail quelqu'un qui a d'une autre religion. Est-ce que vous êtes déjà allé assister à un service avec lui ou avec elle? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de lui poser la question, mais en fait, toi, qu'est-ce que tu crois? Pour simplement comprendre et ensuite peut-être arriver avec ce que nous, nous croyons. Et là, il rejoint de nouveau sur un point qui est essentiel, et puis moi, je vous conseille aussi de le faire, c'est de parler d'abord du Dieu créateur. En disant que le Dieu que nous adorons, c'est celui qui nous a donné la vie, on dit déjà pas mal de choses. En négatif, on dit qu'on ne vient pas du hasard. On dit qu'on n'est pas là juste parce qu'on est tombé du ciel. On dit qu'on est là sur cette terre parce qu'il y a un Dieu qui a voulu nous donner la vie, et qu'en plus, il ne le fait pas parce qu'il en a besoin, mais il le fait gratuitement. Il ne le fait pas parce qu'il a besoin d'avoir des croyants tout partout sur terre, mais il le fait par pure générosité. Puis là, on dit déjà pas mal de choses sur qui est Dieu et le Dieu dans lequel on croit. Ce Dieu qui nous donne la vie, ce souffle de vie. Et puis ensuite, il casse les fausses images qu'on peut avoir de Dieu, toutes ces statues qu'on peut avoir. Puis là, ben, je ne vais pas trop m'étendre, mais nous, ça pourrait être assez offensif. Quels sont les dieux actuels? Et puis qu'on s'amuserait à les casser et puis leur dire qu'ils ne vaut rien. Bon, pour le moment, ça, je laisse de côté. Je reprendrai ça à un autre moment. Et avec cette notion où il dit que Dieu apporte la vie, Paul, il arrive à sur le terrain où il dit que Dieu, finalement, il n'est pas si loin que ça de chacune et chacun d'entre nous. Dieu est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Et ça, je trouve que c'est un magnifique message de bonne nouvelle. Parce qu'on a l'impression des fois que les contemporains, ceux qui nous entourent, nos prochains que nous aimons, ils sont super éloignés de Dieu et puis ils sont à des kilomètres. Et si on prenait cette interpellation de Paul, puis de dire, mais est-ce que Dieu finalement, il n'est pas beaucoup plus proche qu'on ne le croit de celles et ceux qui nous entourent? Est-ce que ces éléments-là ne sont pas perceptibles aussi pour celles et ceux qui nous entourent? Puis quand on fait un peu l'expérience, on se rend compte que les fronts ne sont pas si figés que ça quand on arrive sur des éléments comme qu'est-ce qui nous donne le souffle de vie? Quel est le sens que l'on a? Est-ce que l'on est le fruit du hasard ou pas? On se rend compte que là, la discussion n'est pas si carrée que si on arrive directement avec des choses très carrées. Ensuite, il est question du jugement et il est question de la résurrection. Et là, c'est le moment où tout déraille. C'est plus possible pour les gens de croire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort. Ce n'est pas que ça finit mal. C'est qu'on voit qu'il y a une progression dans l'annonce que l'on peut faire de la bonne nouvelle. Il y a une progression dans l'annonce de ce qui fait le cœur de notre foi. Et effectivement, il y a une part qui nous échappe, et c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Effectivement, le fait d'arriver sur la résurrection, ça va troubler pas mal de monde, parce que là, on place vraiment notre foi dans quelque chose qui nous dépasse et qu'on n'a pas la maîtrise dessus. Et déjà Paul, puis là je trouve que par rapport à toutes nos culpabilités, c'est précieux de le voir, déjà Paul, à son époque, il a préféré annoncer le cœur du message, quitte à être pas compris, que de le mettre de côté et puis continuer la discussion. Et ça, je trouve très intéressant. Puis pour nous déculpabiliser, même Paul, qui a écrit quasiment tout le Nouveau Testament, il n'y est pas arrivé, lui. Donc, si j'y arrive pas, ce n'est pas la fin du monde, c'est même assez normal, c'est même assez dans la continuité de ce que Paul a vécu. Et pourtant, sur toute son annonce, il y a quand même quelques-uns qui croient, pas beaucoup, mais quelques-uns qui croient. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'on pourrait faire, qu'est-ce que l'on pourrait vivre pour partager la foi à nos voisins ou à nos collègues de travail? Vu la majorité des personnes qui connaissent bien les voisins, qui ont déjà pris souvent l'apéro avec, le premier point, ça va vous concerner, ça va me concerner. Je crois que nous sommes appelés à les rejoindre là où ils sont. Et la première piste que je pourrais nous donner, c'est d'apprendre à prendre soin de nos voisins. Prendre de leurs nouvelles gratuitement. Pas seulement quand on a besoin du voisin pour garder le chat pendant les vacances. Mais d'aller oser dire, voilà, aujourd'hui, comment tu vas? Quelles sont les nouvelles? Prendre soin parce qu'on va commencer petit à petit à savoir qui ils sont vraiment. Quelles sont les questions qui les habitent? Et puis certainement qu'au fil du temps, il y aura peut-être des situations un peu plus délicates. Et puis là, on pourra simplement être au courant. Et puis par exemple, annoncer qu'on va pouvoir proposer un service pratique. Ou alors, prier pour eux. Et puis là, je suis frappé des quelques fois où j'ai essayé, où j'ai pris mon courage à deux mains, dans une situation clé de dire, ben, je vais prier pour toi, pas direct là, et puis je vais poser la main sur l'épaule. Simplement, je dis, on va prier pour toi. Chaque fois, j'ai été bien accueilli par rapport à cela. Puis ça me fait penser à tous ces logo qu'on voit sur Facebook quand il y a un grand événement tragique où c'est mis « Pray for Lebanon, pray for Paris », tous ces moments où on se réunit autour de la prière, je crois que c'est vraiment aussi une clé de pouvoir proposer la prière et dire qu'on pense à chacune, chacun qui nous entoure aussi en prière. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire et puis qu'on ne va pas être taxé de je ne sais pas tout quoi. rendre service et dire que l'on va prier pour eux. Premier truc, prendre soin de nos voisins. Le deuxième point, ça nous concerne plutôt nous. C'est comment on va être vis-à-vis des voisins, vis-à-vis de nos collègues de travail. Puis là, je suis frappé de voir que lorsque je suis assez au point au niveau de ma vie spirituelle, qu'elle est assez intense, j'ai beaucoup plus de facilité à dire qui je suis en tant que croyant. J'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer et puis à dire ma foi. Alors ça, c'est un encouragement assez général, mais qui peut aussi être spécifique dans notre rapport à nos collègues et à nos voisins. Quelle est la qualité de ma vie spirituelle et en quoi, par exemple, ma méditation quotidienne, que tout le monde fait évidemment, elle m'inspire dans les relations avec mes voisins. Comment est-ce que je me laisse interpeller par la parole pour dire et redire une parole que j'ai reçue le matin dans ma méditation? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que je le prends seulement pour moi ou est-ce que ça m'habite, ça fait partie de moi et j'arrive à le transmettre? Et puis là aussi, la prière, je trouve que c'est extraordinaire de prier pour ses voisins, puis de prier pour des ouvertures. Ça arrive très souvent qu'elles vont venir, ces ouvertures, qu'elles seront là parce que Dieu les aura préparées d'avance pour nous. Et puis, la dernière interpellation, c'est aussi une interpellation pour nous et notre vie propre. Vous avez vu que Paul, il termine son discours par un appel à changer de vie. C'est radical, hein, comme manière de concevoir les choses. Il y va, il se lance, il commence, je dirais, piano, puis il appelle ensuite à changer de vie parce que c'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que, mais ça c'est plus compliqué, je le reconnais tout à fait, est-ce qu'on arrive à transmettre à nos voisins ou à nos collègues de travail, avec qui on a une bonne relation de confiance, ça va de soi, que sur certains points, notre foi nous a amenés à changer de vie, voire changer de vie de manière radicale suivant notre parcours de vie. On n'est pas tous égaux là, à ce niveau-là. Mais est-ce que vous arrivez à mentionner un point ou plusieurs points où dans votre vie personnelle, votre foi vous a amené à changer votre manière de faire, votre manière de penser? Ce n'est pas une question si facile que ça. Mais là, de se dire, si moi-même, je n'ai jamais changé de vie à cause de ma foi, comment je vais aller demander aux autres de changer leur vie par rapport à Dieu? Si moi-même, il n'y a rien qui bouge, parce que de toute manière, je suis sur des rails, puis que je vais dire aux autres, vous devez changer votre vie, c'est un peu mezzo. Hein? Ça commencera aussi peut-être par moi, puis de me dire, où est-ce que je change de vie, dans quel domaine est-ce que je change de vie, pour ensuite peut-être simplement le partager à ceux qui m'entourent. Dire sur ce point-là, Dieu m'a appelé à changer de vie. Puis moi, je crois que en ce qui me concerne, où je peux le dire le plus facilement, c'est sur la capacité à reconnaître ce que je fais mal ou ce que je fais faux, notamment envers mes proches. Puis de se dire là, pour ça, je te demande pardon ou je te présente mes excuses, je n'ai pas assuré. Puis si je peux le faire, si sereinement, même que ça me coûte, mais je le fais quand même sereinement dans le fond, c'est parce que je sais que je suis pardonné de Dieu. Puis ça, je pense que de partager ça, vous partagez ça sur une discussion de couple, discussion avec des enfants suivant l'âge des enfants, même discussion entre collègues, d'arriver vers quelqu'un et dire oh, « excuse, là, je n'ai pas assuré », je suis presque sûr que ça ne va pas les laisser indifférents puis que ça va faire réfléchir. Et puis moi, je pense que là, c'est un des changements de vie que nous, en chrétiens, on expérimente régulièrement parce qu'on se sait pardonner. Je vous laisse une piste, il y en a plein d'autres. Mais où nous pouvons dire, là, ma foi, elle change ma vie et ma manière de concevoir les choses. Alors, est-ce qu'on en fait assez, pas assez? Est-ce qu'on est assez offensif, pas assez offensif? C'est toujours des grandes questions qui nous laissent. Je vous laisse ces trois points. Prendre soin de ses collègues, de ses voisins, c'est-à-dire se soucier d'eux. Prendre soin de sa vie de prière et sa vie spirituelle. Et oser des changements de vie, des changements de perspective parce que Dieu nous le demande. Je pense qu'avec ça, on a déjà un bon petit programme pour partager notre foi et transmettre notre foi à nos voisines, nos voisins, nos collègues et notre prochain. Alors, bonne chance à tous, que Dieu nous bénisse et Amen.